Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Planète Business, votre rendez-vous consacré aux grands enjeux économiques, environnementaux et sociétaux qui façonnent l'Afrique. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur un patrimoine essentiel mais particulièrement vulnérable, les mers, les océans et les littoraux africains. Pollution plastique, érosion côtière, surpêche, destruction des écosystèmes marins, changement climatique, les défis sont nombreux, mais derrière ces menaces se trouvent aussi des opportunités. Économie bleue, emploi vert, innovation, tourisme durable et aussi responsabilité sociétale des entreprises. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons M. Fadel Ouad, il est environnementaliste. Avec lui, nous allons donc comprendre comment protéger les écosystèmes marins africains, mais aussi comment faire de l'environnement un véritable levier de développement économique et de responsabilité sociétale. Bienvenue à vous, Monsieur Ouad.
Merci beaucoup, le plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation.
Également. Donc, alors, Monsieur Ouad, pourquoi donc les mers et les océans sont-ils aujourd'hui un enjeu stratégique pour l'Afrique au-delà de la seule question environnementale?
Merci beaucoup. Effectivement, les océans, les mers et les océans jouent un rôle très, très, très important pour les Africains. Vous savez, quand on parle de la sécurité alimentaire, quand on parle de l'emploi, effectivement, les mers et les océans, comme j'ai dit tout à l'heure, jouent un rôle très important. Quand je prends, par exemple, l'exemple de Saint-Louis. Saint-Louis, qui a un capital pirogué de 5000 pirogues. Et chaque pirogue emploie entre 30 et 40 personnes. Vous voyez le nombre. Donc, il n'y a aucune société qui emploie autant de personnes. Et les personnes qui sont employées par la pêche, c'est des jeunes. 80 à 90% c'est des jeunes. Et surtout les femmes aussi transformatrices. Donc vous voyez l'enjeu, que c'est un enjeu capital pour les pays africains qui n'ont pas pratiquement de ressources. Quand je dis ressources, ils n'ont pas accès à beaucoup de ressources, mais cette ressource halieutique, effectivement, joue un rôle très, 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 très important pour les Africains.
Et justement, pour parler de l'Afrique, le continent possède des milliers de kilomètres de côtes, mais ces territoires sont fortement exposés à l'érosion, à la montée du niveau de la mer et aussi aux événements climatiques extrêmes. À quel point la situation est-elle préoccupante?
Oui, actuellement, ce que devait nous apporter ces côtes, effectivement, ça joue maintenant plus de mal que de bien. Alors que c'était une opportunité pour les Africains. Mais malheureusement, avec les changements climatiques, la dégradation des côtes, ça devient effectivement problématique. Alors que, comme j'ai dit, ça devait servir aux Africains parce que tellement, il y a tellement d'opportunités, d'emploi, de richesses. Mais malheureusement, actuellement, nous ne pouvons plus bénéficier de tous ces bienfaits à cause de beaucoup de facteurs. Il y a effectivement les changements climatiques, il y a la surpêche, mais il y a beaucoup de facteurs qui font que maintenant, les océans et les mers nous reviennent à plus de mal que de bien.
Plus de mal que de bien, dans une orientation où aujourd'hui la pollution plastique aussi est devenue l'un des symboles de la dégradation des espaces marins. Quelles sont aujourd'hui les principales sources de cette pollution sur les côtes africaines?
Et malheureusement, il y a les déchets industriels, il y a les déchets qui viennent des autres pays développés, mais nous avons notre responsabilité. Parce que quand vous prenez, comme je t'ai dit, à Saint-Louis, 5000 pirogues, et chaque pirogue, par exemple, dans son équipage, quand ils vont en mer, mais ils amènent leur sachet, où ils mettent tous du plastique, que ce soit les bidons d'huile, que ce soit les sachets en plastique, et tous ces déchets ne reviennent pas. Donc, ils vont les jeter en mer. Donc, eux aussi, ils ont une part de responsabilité, mais la plus grande responsabilité, c'est les pays développés. Parce que nous savons, par exemple, moi qui habite à Bargne, ou quand vous allez vers la baie d'Anne, mais les plastiques que vous voyez en mer, qui dérivent sur nos côtes, mais ce ne sont pas les déchets que nous avons jetés. Mais donc, ce sont des déchets qui viennent d'ailleurs. Donc, effectivement, le péril plastique joue un rôle très, 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 très négatif sur le vécu ou sur l'économie même des communautés côtières.
De ces communautés côtières, donc par rapport aussi aujourd'hui à cette orientation qui rappelle bien évidemment la responsabilité sociétale de tout un chacun, c'est quel est aujourd'hui l'impact de cette pollution sur la biodiversité marine, mais aussi sur les communautés qui dépendent directement de la mer pour vivre?
Ah oui, parce qu'effectivement, vous savez, la biodiversité marine, comme on dit, hein, 80%, ou il y a même qui disent 90% de la biodiversité mondiale, 80%, c'est les océans. Donc, effectivement, avec ce péril de plastique, ça va diminuer les activités de pêche, que ce soit les ressources halieutiques. Donc, effectivement, le problème qui se pose actuellement dans nos océans, dans nos mers. C'est un véritable phénomène et la solution n'est pas pour demain. Parce que nous n'avons pas vu vraiment d'efforts que les autorités ont fait. Par exemple, quand je prends l'exemple du Sénégal, il y a une loi sur le plastique qui dort depuis à l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, on ne peut pas de voter cette loi pour interdire effectivement l'exploitation ou bien l'exportation des matières plastiques. Donc effectivement, c'est nos autorités qui ont l'obligation de mettre des lois qui puissent aider les gens, la responsabilité effectivement sociétale, les personnes, les communautés ont une responsabilité, mais une responsabilité très minime par rapport au fléau.
La responsabilité qui est loin d'être bien évidemment minime, qu'on venait de le rappeler dans cette aujourd'hui question de la protection de l'environnement. La pêche occupe aussi une place économique et sociale majeure en Afrique, comme vous le savez. Comment peut-on lutter d'ailleurs contre la surpêche tout en protégeant les revenus et les moyens de subsistance des pêcheurs?
Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la surpêche, c'est dû aux grandes industries. Les licences de pêche que nos pays africains donnent de gauche à droite comme des petits cacahuètes. Donc c'est ça qui ont causé effectivement les problèmes. D'accord, nous avons aussi, comme j'ai dit, notre responsabilité. Mais la responsabilité des filets tournantes, quand on parle de surpêche, mais on ne peut pas indexer les filets tournantes. Mais c'est les grands tanks, les grands bateaux qu'on donne des licences de gauche à droite qui ont puisé pratiquement toutes les ressources. Et malheureusement, les retombées, les communautés ne vont pas le voir. Parce que, par exemple, quand je prends l'exemple un peu de ce qui se passe à Saint-Louis avec l'exploitation du pétrole et tout ce que cela peut engendrer comme effet négatif sur les pêcheurs. Et pourtant, jusqu'à présent, les pêcheurs ne sont pas impliqués, ils ne savent pas sur quel pied danser. Donc, c'est effectivement un problème de majeur sur la surpêche, mais c'est la responsabilité est due à ces licences qu'on donne de gauche à droite à ces industriels qui vont pratiquement puiser toutes nos ressources.
Toutes nos ressources également dans plusieurs pays africains, la mangrove, les zones humides, côtières sont menacées, ça aussi c'est un fait. Pourquoi d'ailleurs ces écosystèmes sont-ils aussi importants dans la lutte contre le changement climatique?
Ah oui, nous savons tous que, par exemple, quand on parle de mangrove, mais leur séquestration de CO2, donc ils jouent un rôle très 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 important. Mais quand vous allez dans le delta du Saloum, où ces femmes qui travaillent toutes leurs ressources, ils le prennent sur les mangroves. Donc, c'est un véritable problème. Et pourtant, nous tous, nous avons vu maintenant, pour faire même du reboisement de mangroves, c'est tellement difficile parce qu'avec l'acidification des océans, ça commence à avoir un impact sur le reboisement des mangroves. Et malheureusement, si les mangroves disparaissent, c'est toute une vie, toute une culture, qui va s'en aller. Parce que les mangroves, à part qui régulent les températures, les mangroves qui jouent un rôle pour sur les changements climatiques, hormis ça, mais aussi il y a cet aspect économique pour les communautés, surtout les insulaires qui sont, vous allez en Casamance, vous allez à Saint-Louis, vous allez dans les deltas du Saloum, et un peu partout en Afrique, effectivement, les mangroves jouent un rôle très, très, très important, et si on n'y prend pas garde, effectivement, ça va disparaître ou ça va se dégrader, quoi.
ça va disparaître ou se dégrader. Je rappelle que nous sommes avec M. Fadel Ouad, il est environnementaliste sur la question de la responsabilité sociétale des entreprises. Tout de suite, M. Fadel Ouad, avant de revenir avec vous, nous allons suivre la Minute RSE pour revenir sur l'actualité RSE en Afrique et dans le monde. Et c'est tout de suite.
Aujourd'hui, la RSE change encore de visage. Après le climat, les entreprises commencent à regarder de très près la nature. C'est l'un des sujets qui monte fortement dans le monde économique. En Afrique du Sud, l'actualité vient de la rappeler. La Cour constitutionnelle a récemment bloqué des recherches pétrolières de Shell sur la Wild Coast, au nom notamment des enjeux environnementaux et de justice climatique. Et l'enjeu dépasse largement l'environnement. Plus de la moitié du PIB mondial dépend modérément ou fortement de la nature, à travers l'eau, les sols, les forêts ou encore la biodiversité. En Afrique, cette question devient stratégique. Le continent doit exploiter ses minerais critiques, cuivre, cobalt, lithium, nickel, indispensables à la transition énergétique, tout en protégeant les communautés et les écosystèmes. Le défi est désormais de transformer cette richesse en développement responsable et pas seulement en extraction. Et pendant ce temps, en Europe, les règles ESG évoluent. La directive Omnibus adoptée cette année réduit le périmètre de la CSRD et concentre davantage les obligations sur les plus grandes entreprises. La tendance est donc claire. Demain, une entreprise responsable ne sera pas seulement celle qui réduit son carbone, ce sera celle qui sait mesurer, protéger et valoriser la nature dont dépend son activité.
De retour avec notre invité, M. Fadel Ouad. Je rappelle que vous êtes environnementaliste. Tout de suite, vous nous parliez bien évidemment de l'utilité aujourd'hui des mangroves, entre autres dans les zones humides, toujours dans le cadre de la protection marine. On parle de plus en plus d'économie bleue. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour un pays africain?
Ah oui, mais pour les pays africains, l'économie bleue, ça représente beaucoup. Vous savez, la mer avec la pêche, que ce soit au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, nous savons ce que la pêche représente pour les communautés, ne serait-ce que pour notre alimentation, parce que nous avons tous, l'homme a besoin de nutrition, l'homme a besoin de pour bien manger, mais nous n'avons pas les moyens peut-être de nous payer de la viande, ou mais vous savez que les Africains qui sont surtout sur la côte mangent du poisson du lundi au dimanche, donc et ça fait du bien. Mais ces poissons, les gens qui travaillent dessus, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est des pêcheurs, c'est des millions de personnes. La mer emploie tellement de personnes que tu ne verras pas une entreprise qui emploie le tiers de ce que la mer est. Donc l'économie bleue, vous prenez aussi le tourisme, parce que près de la mer, il y a les sites touristiques, ça aussi, ça crée des emplois. Mais surtout les femmes. Parce que la particularité sur l'économie bleue, c'est une économie qui est avantagée par les jeunes et les femmes. Ce sont les jeunes et les femmes qui en bénéficient. Parce que la plupart des jeunes qui vont en mer, l'équipage est composé de 80% de jeunes. Les femmes font la transformation. Donc, effectivement, c'est un secteur qui joue un rôle très, très important sur l'emploi. Donc, effectivement, l'économie bleue, comme on dit, on doit le préserver et le réguler aussi. Parce que tous ces jeunes n'ont pas, même en allant à la retraite, n'ont pas de retraite. Pourtant, ils travaillent dans une pirogue pendant 20 ans, 30 ans. Mais après, quand tu deviens vieux, voilà, c'est ça. Tu n'as pas de retraite, tu n'as pas d'autres sources de revenus pour accompagner ta famille.
Accompagner sa famille, on parle bien évidemment d'économie bleue, mais aussi le secteur privé a-t-il suffisamment d'ailleurs conscience de son impact sur les océans et les littoraux? Et quelles responsabilités ces entreprises devraient-elles prendre?
Non, les entreprises, parce que comme j'ai dit, au Sénégal, ce sont nos autorités qui doivent aider. Parce que chaque entreprise qui se met sur le littoral et qui peut avoir des impacts sur la pêche, mais on doit encadrer ça. Mais on ne doit pas laisser aux entreprises le fait, par exemple, quand vous prenez la RSE. Mais nous, ici à Barni, une usine qui s'implante près de la mer et qui va rejeter ses eaux usées à la mer, mais pour donner son RSE, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'imam Ratib. On va acheter un 4x4 pour l'imam Ratib. On va acheter un véhicule pour le grand lutteur. Mais on amène à la Mecque près de 6 imams. Mais ça, comment est-ce qu'on peut dire que c'est ça l'RSE? Allez à Kédougou. dans les mines aussi, les industries extractives. Mais c'est tout le temps comme ça. Même le rapport le dernier rapport de l'ITE l'a sorti. Une RSE où on achète des véhicules, où on donne des billets à la MEP ou à Rome. Donc, effectivement, l'État doit encadrer le secteur parce que, effectivement, c'est un secteur qui est très, 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 très important, qui emploie autant de monde qu'aucune entreprise ne peut faire. Donc, si l'État ne les encadre pas, effectivement, il y a les bailleurs qui vont venir s'installer, mettre leurs hôtels, mettre des industries. Et puis, qu'est-ce qu'on te dit? C'est pour le développement. Mais pour quel développement? Tous ces gens qui vont perdre leur emploi, qui vivaient de la mer, mais eux, ils ne font pas partie de ce développement. Donc, c'est un véritable problème. Et c'est l'État qui doit, effectivement, essayer de voir comment réguler le secteur. Parce qu'il y a
tout à fait. Et justement, par rapport à cela, vous venez parler tout de suite d'économie. Comment peut-on aujourd'hui concilier développement économique, urbanisation littorale et protection des écosystèmes marins, à votre avis?
Mais c'est ça, l'État qui doit jouer ce rôle. Parce que les industries, ils ne voient que leurs gains. Les communautés, depuis leurs ancêtres, c'est toujours ce même modèle de pêche, ce même modèle d'économie. Mais effectivement, on doit changer ces méthodes. Mais pour que tout ça soit effectif, il faut que l'État appelle sur la table tous les acteurs pour qu'on puisse discuter et définir quelle stratégie mettre en place pour que ces communautés puissent vivre dignement. Mais un pêcheur qui vit alors que son grand-père qui avait un pérovial de cela 100 ans, et jusqu'à présent, c'est ce même modèle de développement que les jeunes continuent à vivre. C'est pas durable.
Et justement, pour parler de cette durabilité dans les actions, Fadel Ouad, si vous deviez identifier une priorité absolue pour protéger les côtes africaines dans les 10 prochaines années, quelle serait-elle?
Bon, là, je crois que c'est essayer de trouver des solutions sur les régions côtières, sur les changements climatiques. Donc, que tout le monde s'y mette, nos États africains, ensemble, et les États européens qui font que ce sont eux les responsabilités, pour qu'ils puissent discuter sur les 10 ans, comment faire pour que ce soit un projet pour tout le monde. Parce que sinon, on va continuer comme ça, parce que les causes, les problèmes qu'on a, c'est dû au changement climatique. Et s'il n'y a pas de solution, effectivement, on va continuer à en parler, on va continuer à crier, et puis il n'y aura pas de solution.
Il n'y aura pas de solution car il faut protéger les océans, c'est aussi préserver la biodiversité, mais aussi protéger des emplois, des ressources alimentaires et des économies locales. Mais cette protection ne peut pas reposer uniquement sur les États et les associations. Les entreprises ont également un rôle majeur à jouer. C'est justement tout l'enjeu de la deuxième partie que nous allons développer tout à l'heure dans l'autre numéro de Toujours Planète Business sur comment transformer les principes de la RSE en actions concrètes pour accélérer la transition environnementale en Afrique. Ce sera toujours avec M. Fadel Ouad. M. Fadel Ouad, merci déjà pour cette première partie.
C'est moi qui vous remercie, mon cher.
Et on donne rendez-vous à nos auditeurs pour la deuxième partie, toujours avec M. Fadel Ouad, pour parler de RSE et de ses actions concrètes pour accélérer cette transition environnementale en Afrique. Merci et au prochain numéro.